Je vais commencer par vous poser une question. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans votre vie? Est-ce que vous avez des idées ou proposez-moi des idées, des choses qui vous tiennent le plus à cœur dans vos vies, des choses avec lesquelles vous êtes attaché. Alors ne me répondez pas à l'Église, le Seigneur, hormis cela. Hormis cela, du coup, à part le Seigneur et l'Église, mais du coup, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Oui, nos familles, effectivement, c'est un bon exemple. Autre chose? Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a aucun jugement, chacun est libre de s'attacher. Vivre avec ses amis. Rire avec ses amis. Ah ouais, c'est intéressant ça. Rire avec ses amis, ouais. La santé. Ouais, s'attacher à sa santé, ouais. Pourvoir aux besoins de ma famille. Oui, toi, tu connais le message, toi. Depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Pourvoir aux besoins, ouais, la famille. Autre chose? Se lever le matin en pleine forme, ouais. Des petites choses qui, au fur et à mesure de l'âge, paraissent précieuses, effectivement. Et si Dieu vous demandait de lui donner ce que vous avez de plus cher, que feriez-vous? Alors, quand c'est des choses matérielles, on peut se dire, allez, c'est facile. Là, Anita parlait de la famille, par exemple. Que faire? Que ferions-nous? Je vous invite, du coup, ce matin, et ça va être mon message et le titre de ce matin, Jéhovah Jireh, Dieu pourvoir. C'est une thématique que j'ai pas forcément prévu d'aborder là, et on va le faire en deux dimanches. Je pense que le Seigneur a quelque chose à nous dire à travers ce passage. Et je vous invite à prendre, du coup, d'ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, versets 1 à 14, où nous allons parler, du coup, de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh qui se traduit, et j'ai traduit en français, le Seigneur pourvoir. C'est un des noms de Dieu. Ce n'est même pas juste un des qualificatifs de Dieu. On l'a chanté ce matin. C'est aussi un de ses attributs, un de ses noms. Dieu pourvoir. Genèse, chapitre 22. Versets 1 à 14, voilà, je vous invite à prendre vos Bibles puisque le texte est assez long. J'ai mis le texte, mais on y reviendra, donc ce sera plus simple pour vous de pouvoir prendre vos Bibles. Genèse chapitre 22, donc le premier livre de la Bible, versets 1 à 14. Tu peux mettre le texte, Gwendoline. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham, et celui-ci répondit, « Me voici ». Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena deux de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à tes serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père !» Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham, me voici, répondit-il, ne porte pas la main sur le garçon. » Ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Amen. Une histoire peut-être que vous connaissez. Qui est connu, on en parle beaucoup, c'est même des histoires qu'on en parle à l'école le dimanche. Et la Bible est remplie d'histoires où Dieu intervient dans la vie des hommes. On pourrait dire que ce sont de belles histoires, et s'arrêter à cela. Mais toutes ces histoires nous disent quelque chose aujourd'hui, Nous avons un Dieu qui pourvoit. Il pourvoit aux besoins des hommes. On est tous d'accord dessus ? Pourtant, parfois, on peut, dans notre marche avec le Seigneur, le doute peut s'installer. Et on peut se dire, mais est-ce que ce Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu que je lis au travers de sa parole, qui a agi là avec Abraham, mais qui a aussi agi à travers de nombreux hommes, le roi David, Daniel avec ses amis dans la fosse aux lions, d'hommes et de femmes où Dieu va intervenir, est-ce que finalement toutes ces histoires, elles sont encore d'actualité pour moi ? Est-ce que finalement ce Dieu créateur peut vraiment pourvoir à mes besoins ? Et douter, de dire c'était peut-être avant. Aujourd'hui c'est plus vraiment d'actualité, aujourd'hui moi je ne vois pas Dieu pourvoir dans ma vie. Et du coup entre le Amen que l'on peut dire ce matin et notre réalité, être dans la confusion. Pourtant, la réponse ici, mes frères et sœurs, elle est claire, elle est sans ambiguïté. C'est un des noms de Dieu, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Alors pourquoi quelquefois on a du mal à s'en apercevoir ? Je vais donner un exemple ici, un exemple voilà, un peu fictif, mais de comment Dieu pourvoit à nos besoins. Imaginons un père. Un père qui va prendre le train avec son fils, il va acheter du coup les billets de train. Et ce garçon va prendre le train pour la première fois et il va demander à son père « Où est mon billet ?» Et son père va lui dire « Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, je m'occupe de tout. » Pendant le trajet, le garçon voit que chacun sort son billet pour le passer au contrôleur et lui se dit « Mais moi j'ai rien, je n'ai pas de billet. » Mais il sait qu'il a confiance parce que son père lui a dit « Je m'occupe de tout. » Et au moment où le contrôleur passe, son père lui tend le billet et l'affaire est réglée. Une fois d'enfant. La confiance en Dieu. Dieu n'est pas celui qui va nous dire, donner tout de suite toute chose. Il donne les choses en son temps. Mais il pourvoit. Il pourvoit. Pendant le trajet, le garçon voyait les autres passagers. Il pouvait dire « Moi, je n'ai rien ». Mais ce qui fait que ça tient, c'est la confiance en son Père. Et nous devons aussi avoir cette même confiance en Dieu. Au moment voulu par Dieu, Dieu pourvoit à nos besoins. Vous croyez cela ? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté ? Je vous encourage du coup mes frères et sœurs aussi à l'expérimenter. Pour l'expérimenter ici, il s'agit de faire des vrais pas de foi. C'est dans le besoin, c'est dans nos questionnements ici que Dieu ici pourvoit. Pour venir à notre texte, je vais commencer par ce premier point. Dieu éprouve notre foi. Et dans ce texte, Dieu demande à un homme, Abraham, de sacrifier son fils unique. Pas de sacrifier son âne, sa maison, son fils. Déjà, c'est beaucoup, son propre fils, son propre enfant, mais en plus, c'est le seul. Alors, vous allez me dire, c'est pas une raison, mais encore plus. Déjà, rien qu'un fils, ça suffit. Et au début, dès le début de ce chapitre, il est précisé cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu n'est pas un Dieu qui se satisfait dans le sacrifice d'enfants, encore une fois, hein, bien au contraire. Mais ici, il s'agit de voir où est-ce que Abraham est capable d'aller pour suivre son Seigneur. Abraham aurait pu répondre, c'est mon seul fils, ou même, c'est au travers de lui, Seigneur, que tu as promis que tu me bénirais. Parce que Isaac, c'est le fils de la bénédiction. Le fils que Dieu a répondu, a donné une promesse à Abraham. Non, Abraham ne va pas poser de questions au Seigneur. Et il va dire ceci au verset 5, vous pourrez prendre vos Bibles. Il va dire à ses serviteurs, alors qu'il est dans le haut chemin, « Restez ici avec l'âne, le garçon et moi nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham savait déjà que peu importe comment ça allait se passer, ils allaient revenir. C'est fou, hein ? Pourtant, Dieu ne lui dit rien. Plus tard sur le chemin, c'est son fils hein, qui va lui dire « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et cette formidable réponse d'Abraham, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Exactement la même réponse que cet enfant dans le train. Abraham sait que Dieu pourvoira. Il a une foi impressionnante, Abraham. Il aimait peut-être son fils plus que Dieu. Peut-être que c'est pour ça que Dieu va lui demander de sacrifier son fils. Et c'est sans doute même pour cela. Mais en acceptant d'obéir, Abraham montre que Dieu passait avant tout. C'est fort, hein ? Dans les cultures païennes de l'époque, les dieux idolâtres hein, exigeaient la mort du premier-né. Des sacrifices d'enfants, mais ici le vrai Dieu se distingue, il arrête Abraham, il refuse la mort d'Isaac, et il va pourvoir lui-même un substitut, un bouc. Et cette histoire ici, elle est l'image ici de tout l'évangile, qui quelques milliers d'années plus tard, ce jour-là, Dieu va montrer qu'il ne prend pas juste le fils des hommes, il ne prend pas la vie des hommes, il se donne lui-même en sacrifice au travers de Jésus-Christ. Lui qui va donner son seul fils, il va s'incarner sur terre, Dieu va donner sa vie pour la foule, pour la multitude d'êtres humains que nous sommes. Tout cela pour nous sauver. Dieu ici éprouve la foi d'Abraham. Et j'arrive du coup à ma deuxième partie. Est-ce que du coup face à ce Dieu, nous avons des solutions humaines? Est-ce que nous sommes des magouilleurs? Ou est-ce que nous lui faisons une confiance totale? Je m'explique. Parce qu'on est tous d'accord, hein. Je suis d'accord avec vous, que Dieu pourvoit. Maintenant, dans la manière de le vivre, des fois, c'est complètement différent. Je reprends l'exemple d'Abraham, parce que c'est un bel exemple. On est au chapitre 22, on est quelque part à un moment de la vie d'Abraham où il y a une maturité, une foi stable, mais Abraham, il n'a pas toujours été comme ça. Abraham, au début de sa vie, manque de foi. En Égypte, il va faire passer sa femme Sarah pour sa sœur. Parce qu'il a peur que les Égyptiens le tuent pour prendre sa femme. Pourtant, c'est Dieu qui lui a dit d'aller en Égypte. Mais il manque de foi. Il va dire « Oui, Seigneur, je te fais confiance. » Et derrière, il va dire « Ah non, c'est trop de pression, j'ai trop peur. Je vais magouiller, je vais mentir. Comme ça, je peux survivre. » Alors, il va survivre. Mais du coup, il n'a pas confiance dans le Seigneur. Pourtant, il le dit. Il le parle, comme nous peut-être ce matin. Mais dans la pratique, il magouille, il fait à sa manière. Il aide Dieu quelque part, peut-être pour lui. Il présente du coup sa femme pour sa sœur, même pas de remise en question. Plus tard, il va recommencer la même histoire. Ce ne sera pas le pharaon, ce sera le roi Abimélec. Sa femme était peut-être très belle, hein, pour qu'il y en ait plusieurs qui lui tournent autour. Et il va faire exactement la même chose. Le Seigneur va lui dire, mais fais-moi confiance, pas du tout. Il va encore une deuxième fois faire passer sa femme pour sa sœur. Abraham, au début de sa vie, il agit selon ses peurs, et il y a un contraste, il y a un fossé entre ce qu'il proclame de sa bouche et ce qu'il vit. Il dit « j'ai confiance en Dieu » et il va mentir par deux fois pour passer sa femme pour sa sœur. Il cherche des solutions humaines plutôt que de se reposer pleinement sur Dieu. Même lorsque Dieu va lui promettre une descendance, Abraham, Dieu va lui promettre une descendance nombreuse alors que sa femme est stérile. Sarah est stérile, elle est à un âge avancé, elle n'a pas la vingtaine, elle n'a pas la trentaine ou la quarantaine, elle approche les 80 ans. Du coup, qu'est-ce que dit Abraham? Il dit « Amen, oui Seigneur !» Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va tenter d'aider Dieu encore une fois, il va prendre la servante de sa femme pour coucher avec elle et avoir un fils. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu va vouloir. Mais c'est ce qu'il va faire. Alors c'était une coutume de l'époque, dans l'époque de la culture des peuples sémites, ça se faisait. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit « je te donnerai une descendance à travers ta femme, Sarah ». Et cela va créer du coup parce qu'il a magouillé encore une fois, il a tenté d'aider Dieu, d'accomplir le chemin de Dieu par ses propres intelligences, ses propres stratégies. Ça va l'entraîner dans beaucoup de problèmes. Cette décision va créer des tensions dans la famille. Normalement, hein, c'est normal, sa femme va être jalouse que sa servante ait un enfant, qu'elle soit aimée même d'Abraham, malgré tout ce qu'il peut raconter. Ça va créer des jalousies. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir être obligé d'abandonner son fils Ismaël, qu'il a eu avec cette servante. C'est fou, hein? Il abandonne son fils. Alors, vous allez dire, c'est un prélude de ce qu'il va faire après, peut-être. Mais là, c'est irresponsable. Il a cherché, par ses propres moyens, d'accomplir le Dieu pourvoir. En fait, il ne vit rien de Dieu pourvoit. C'est lui qui s'auto-pourvoit. On voit un homme qui agit selon ses propres solutions au lieu de faire pleinement confiance à Dieu. Et puis, on arrive à ce chapitre 22. Dans ce chapitre 22, Abraham, il est complètement transformé. Alors, je vous passe les détails, je vous invite à lire le livre de la Genèse. Abraham, cette confiance, elle va grandir petit à petit. Il ne va pas rester dans cet état d'enfant. Il va grandir, il va avoir une confiance totale en Dieu, et puis il va arriver à ce chapitre où il est prêt à offrir son fils unique, sans question, sans commencer à magouiller, à trouver sur le chemin un autre enfant, je sais pas moi. Ah tiens, je vais trouver un autre enfant, c'est peut-être lui, Seigneur. Non. Il va être prêt à l'offrir en sacrifice. Abraham est passé de l'homme qui cherche à résoudre les problèmes par lui-même à celui qui se repose pleinement sur Dieu. Sa foi va se reposer sur la fidélité de Dieu, non sur ses propres stratégies. Il sait que Dieu peut accomplir ses promesses, même quand les circonstances semblent impossibles. Paul va le dire. Il va parler d'Abraham. Hein, Hébreux chapitre 11, je ne l'ai pas mis, mais je vous invite à le lire. Paul va dire ceci, que Abraham avait la foi et qu'il croyait même que Dieu était capable de ramener à la vie Isaac. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Faisons donc confiance à Dieu qui nous promet de pourvoir à nos besoins. Est-ce que ce matin, voilà, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes cet Abraham du début? On est tous d'accord que Dieu pourvoit, mais est-ce qu'on est là à magouiller dans nos vies? À tromper les uns et les autres, à voler, à mentir, je sais pas, je pense un truc tout bête, sur la déclaration d'impôt, à commencer à magouiller, parce qu'on sent que nos revenus baissent, et du coup on magouille, au lieu de compter vraiment sur ce Dieu qui pourvoit. J'ai un exemple comme ça, je l'ai même pas noté, mais voilà, il y a plein d'exemples. Hein. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre ce que je dis de ma bouche et ce que je vis? Ce que Dieu attend de nous, c'est une confiance totale. Lui faire pleinement confiance. Pas juste dire « Oui, Seigneur, tu pourvois, et moi, dans ma vie, je vais essayer de faire à ma manière. » Parce que ça ne marchera pas, mes amis. Dans la vie d'Abraham, ça n'a pas marché, et dans la vie de tous les hommes et des femmes de la Bible, ceux qui ont proclamé des choses, mais qui n'ont pas vécu ces choses-là, Dieu les laisse. Face à leurs soucis, Abraham, il va galérer dans sa vie de famille. Alors où est-ce que nous en sommes? Prêts à faire pleinement confiance à Dieu ou pas? Un exemple, une histoire que j'avais lue, que je trouve intéressante, qui correspond très bien peut-être à ce message de ce matin, c'est l'histoire d'un homme qui doit faire un long trajet en voiture pour un entretien d'embauche. Il a trouvé du travail, cet homme-là. Et le trajet est assez long, il a plusieurs heures de route. Et pour arriver frais, il va demander à son ami qui est garagiste de le conduire. Pratique, il se dit, si j'ai un problème en plus, il est garagiste, donc j'ai une confiance totale avec lui. Il va lui dire, mais avec toi, je sais que je peux te faire confiance, tout va bien. Et si j'ai un problème, t'es garagiste, je sais que tout baigne. Ils prennent de l'avance pour arriver à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe? À quelques kilomètres de l'arrivée, la voiture, ça sent pas très bon là. Les voyants s'allument, sur le moteur, il y a un panache blanc qui commence à sortir, et elle tombe en panne à quelques kilomètres de l'arrivée, là où il doit passer cet entretien d'embauche. Et son ami, garagiste, lui dit calmement, oh, t'inquiète pas, je vois c'est quoi, il y a le radiateur, il y a quelque chose qui va pas, on a peut-être un peu trop roulé, je vais m'y mettre, et puis on repart. L'homme commence à dire ok, qui doit passer en entretien, et puis il voit l'heure qui commence à tourner. L'avance qu'ils ont pris commence à baisser, et il commence à dire à son ami, j'ai regardé sur Google, je peux prendre un raccourci, il y a un raccourci que je peux prendre à pied, si je cours, je peux arriver à l'heure. Et cet homme, du coup, commence à courir en costume pour arriver à temps à cet entretien. Il laisse son ami réparer la voiture, et il court à son entretien. Finalement, il va arriver légèrement en retard, en sueur, fatigué, stressé, et sur le parking, il va découvrir son ami qui est là, avec la voiture, qui a fini de le réparer, qui l'attendait. Il arrive, voilà, un peu en retard, il va passer son entretien complètement, quelque part, désemparé. Cet homme, s'il avait attendu calmement et fait confiance à son ami garagiste, il serait arrivé à l'heure. Son ami garagiste connaît les problèmes de la voiture, il lui aurait dit si ce n'était pas possible de partir. Bien avant. Mais cet homme n'avait pas confiance, même en son ami quelque part, en ses capacités à réparer à temps. Et du coup, il arrive, alors une histoire qui nous fait sourire, mais qui nous montre, entre ce que l'on dit et ce que l'on vit, ce qui peut se passer. Cet homme-là, il a magouillé dans son coin quelque part. Il a trouvé une solution, il a regardé sur internet un chemin pour courir et aller plus vite. Finalement, il arrive en stress, paniqué, en sueur à un entretien, alors qu'il aurait pu faire confiance. La confiance. Dieu connaît nos chemins. Il sait comment nous mener à destination, et parfois nous essayons, nous, de courir en avance, d'aider Dieu. Nous essayons d'aider Dieu. Et qu'est-ce que fait Dieu ? Eh bien, il nous laisse, il dit, écoute, ben vas-y, cours, et puis on va voir. La vraie paix vient de celui qui tient nos vies entre ses mains. Il est capable d'intervenir au moment qu'il faut. Et c'est mon dernier point, et peut-être le point le plus important. Dieu pourvoit, il pourvoit ce qu'il faut, au bon moment et au bon endroit. Juste ce qu'il faut. Dieu ne donne jamais trop ni trop peu, il donne ce qu'il faut. Comme Abraham avec le bélier, Dieu ne lui donne pas un troupeau de béliers, il lui donne un bélier. Juste ce qu'il faut pour le sacrifice. Il ne lui en donne pas deux, un pour le trajet retour pour manger sur la route, parce qu'ils ont 3 jours de marche. Hein. Je vous invite à relire le texte. Non, non, non. À chaque jour suffit sa peine, là c'est le bélier pour le sacrifice. Sur la route, Dieu pourvoira aussi. D'ailleurs, le texte ne nous dit pas comment ça va se passer, mais on sait que Dieu pourvoira. Abraham aurait pu encore se dire, attends, le bouc, il est assez grand, c'est grand un bouc, hein. C'est pas un petit steak. Je prends la moitié, j'en garde pour moi pour le trajet retour. Dieu comprendra. Parce que peut-être que Dieu a pourvu une fois, mais est-ce qu'il pourvoira après? Mais non, Abraham sait que si Dieu pourvoit, il pourvoira encore le lendemain. Est-ce que nous sommes dans cet état d'esprit-là? Au bon endroit. Alors quand je dis au bon endroit, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de bon endroit magique pour recevoir la bénédiction de Dieu. Pas besoin d'aller à Lourdes pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et même sans parler de Lourdes, hein, je vais parler de nous évangéliques. Il y a quelques dizaines d'années, chez nous, il y a des centaines de chrétiens qui allaient à Toronto pour soi-disant recevoir la bénédiction de Dieu. C'est pas mieux, hein. Il n'y a pas d'endroit pour recevoir la bénédiction de Dieu. On parle ici pas d'endroit géographique, l'endroit ici c'est un endroit intérieur, c'est le cœur, la disposition du cœur. Dieu veut que notre cœur soit prêt, sans amertume, sans incrédulité, sans refus de changer. Un des obstacles à ce Dieu qui pourvoit, c'est le péché. Le fait de vouloir répondre à nos propres besoins. Et dans nos cœurs transformés par le Saint-Esprit, Dieu peut agir pleinement. Juste ce qu'il faut, au bon endroit, et puis ce dernier point, au bon moment. Intéressant de voir dans ce texte que Dieu ne pourvoit pas en bas de la montagne. Abraham, il arrive, il est en bas de la montagne, et il n'y a pas de bouc. Dieu ne pourvoit pas sur le chemin, ils font 3 jours de marche. Hein. Vous imaginez, pour un père, il sacrifie son fils, il sait que ça doit tourner quand même, hein. Et il n'y a aucun signe de Dieu, aucune parole de Dieu. Dieu attend que Abraham agisse, qu'il fasse ce qu'il lui demande. Et Dieu va pouvoir au dernier moment. Quand Abraham a marché pendant ces 3 jours, qu'il a monté la montagne, qu'il a construit un autel en pierre, qu'il a attaché son fils, il va même poser son fils sur l'autel. Est-ce que Dieu pourvoit ce moment-là ? Non. Abraham, Dieu attend qu'il prenne le couteau. Et c'est au moment où il va le tuer, hein, littéralement, que Dieu intervient. C'est pas Abraham prend le couteau et dit « Bon ben Seigneur, qu'est-ce que tu fais là ?» Non, il est prêt à le tuer, hein, dans le texte. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu intervient. Puisque Abraham est prêt à le faire. D'ailleurs, c'est ce que Paul va dire. Hein. Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Il était déterminé. Il avait confiance en Dieu. C'est cette foi-là que Dieu demande. Et c'est pour cela, du coup, que Dieu intervient au bouc. À ce moment-là, Dieu intervient et il pourvoit au bouc. Pas avant, pas pendant, mais au moment parfait, au moment voulu par Dieu. Je vais vous poser une question ce matin et ça va être ma conclusion. Dieu poursuit avec chacun de nous un objectif qui dépasse de loin nos besoins. Est-ce que vous savez c'est quoi ? Parce que quand on parle de pourvoir à nos besoins, il faut savoir de quel besoin il s'agit. Avec chacun de nous, il y a un objectif que Dieu veut. C'est son premier objectif d'ailleurs, son seul objectif. Être sauvé, oui, d'accord, ouais. Il y a autre chose. Aimer Dieu de tout son Dieu, de son cœur, ouais. Qu'est-ce que ça implique? Ressembler à Jésus. Ce que Dieu attend de nous, c'est même pas ce qu'il attend de nous, c'est ce que Dieu veut faire, c'est nous transformer pour que nous soyons à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est tout le Nouveau Testament. Jour après jour dans notre marche, pour que nous lui ressemblions, que nous ressemblions au Christ, que nous vivions quelque part éternellement auprès de lui à sa ressemblance. C'est le désir premier de Dieu. Son seul désir. Encore ici, on parle de besoins. Il ne s'agit pas, du coup, nous, de mettre d'autres besoins. On peut, hein. Mais est-ce que ces besoins que nous avons répondent à ce besoin, ce désir, cette volonté de Dieu? Donc, quand Dieu pourvoit à nos besoins, son objectif n'est pas de nous satisfaire, parce que Dieu n'est pas à notre service. Bon, on en déplaise à beaucoup, hein, d'ailleurs. Sur Internet, c'est pas ce qu'on entend. Mais nous sommes au service de Dieu. Cela n'a rien à voir. Un exemple qui m'a beaucoup frappé, qui me frappe, hein, vous pourrez lire, c'est l'épître de Paul aux Romains. Belle épître, hein, que Paul va écrire, les premiers mots de Paul. Vous pourrez lire, hein, chapitre 1, verset 1. Paul va se présenter, comment il va se présenter? Paul, esclave du Christ. Je suis l'esclave du Christ, moi qui vous écris. Et nous ici, autant que nous sommes les esclaves de Dieu. Le terme grec ici c'est doulos, esclave, serviteur, celui qui fait pleinement confiance au maître et qui sait que ce maître répondra à ses besoins. Cet encouragement de Dieu à pourvoir à nos besoins, ce n'est donc pas comme on peut le croire. J'ai un plan pour ma vie, j'ai tracé un plan merveilleux pour ma vie. Je me suis fait d'excellents projets pour ma vie et Dieu va m'aider à les accomplir. Ça, ce n'est pas le christianisme. Ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas le christianisme. Ce que Dieu dit n'a rien à voir avec cela. Pourtant, c'est ce qu'on va entendre. C'est un faux évangile. Ce que Dieu veut dire ici, c'est que lui, il a un plan merveilleux pour nos vies. Il connaît nos besoins. Mieux que nous-mêmes, d'ailleurs. Il connaît nos motivations les plus profondes que nous avons. Et il saura les répondre pour arriver à ce que nous puissions être à son image. Abraham, c'était ça. L'épreuve que Dieu met à Abraham, c'est pour qu'il grandisse dans sa foi. Et on voit ici que sa foi ressent encore plus forte. Cela veut dire que nous avons ici un Dieu qui le connaît parfaitement, qui sait exactement ce dont nous avons besoin, et qui interviendra au bon moment, au bon endroit, et juste ce qu'il faut. À nous de répondre ce matin, mes frères et sœurs, non ma volonté, Seigneur, pas mes désirs, mais la tienne. Non ce que je veux, mais ce que toi tu veux, car toi seul me connais si bien, et je sais que tu pourvois. Adonai Jireh. Un exemple. Puis nous allons prier. Imaginez un enfant qui demande à son père un vélo rouge pour Noël. Son père, qui connaît mieux ses besoins, à Noël ne va pas lui offrir un vélo rouge, il va lui offrir un manteau chaud. Cet enfant, qu'est-ce qu'il va dire ? À votre avis, est-ce qu'il va sauter de joie? Ah non, pas du tout. Sauf s'il est bien poli, il va faire semblant peut-être, mais au fond de lui, c'est pas de la joie qu'il aura. Il va être déçu, il va être triste, il ne va pas comprendre. Il va dire, moi je t'ai exprimé un autre besoin, toi tu me donnes un manteau, qu'est-ce que je vais faire avec un manteau? Pourtant, au jour de l'hiver, il sera bien content d'avoir ce manteau, parce que son père connaît son besoin. Et que le vélo, c'est intéressant, mais qu'avant un vélo, ce qu'il faut, c'est préserver sa santé. Donc ce Dieu qui pourvoit nos besoins n'est pas un Dieu qui pourvoit selon nos besoins, selon ce que nous on veut, c'est selon ce que lui veut. Abraham, c'est le cas. Vous pensez qu'Abraham, il a voulu qu'on sacrifie son fils? Pourtant, c'est ce que Dieu va lui demander. Donc on dit tous amène à ça, maintenant est-ce qu'on est prêt à le vivre? Mais après c'est autre chose, hein, là. Et Dieu nous appelle ici à vivre cela. Je vous pose du coup cette question ce matin. Qui ici veut ressembler au Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est la seule question ici quelque part. Hein. Je vous ai pas demandé de lever la main, mais si vous levez la main, que c'est tant mieux. Que chacun réponde dans son cœur. Et du coup, si cette réponse elle est oui, qui ce matin veut être esclave du Christ? Pleinement soumise à sa volonté. En sachant que Dieu est un bon maître. Un maître qui ne maltraite pas ses enfants, bien au contraire. Il veut que nous lui ressemblions. Si c'est ton cas ce matin, et uniquement si c'est ton cas, Dieu pourvoira à tes besoins en vue de cela. Parce que les besoins que Dieu pourvoit, comme on l'entend, ce n'est pas la richesse ici futile de ce monde, c'est lui ressembler. Et ça vaut tout au monde.